Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du travail en équipe. En fait, on en a parlé la semaine dernière, on a débuté cette série sur le travail en équipe parce que c'est important que vous soyez un leader, un chef d'entreprise, un entrepreneur. Eh bien, même si vous êtes un travailleur autonome, vous n'avez pas le choix de travailler en équipe parce que vous avez des collaborateurs. Et c'est important de choisir ses collaborateurs. Souvent, on peut y aller instinctivement, surtout si on a de l'influence, si on a du charisme, on peut y aller instinctivement. Mais lorsqu'on capte certains repères qui sont importants à considérer, qui touchent l'esprit d'équipe, qui contribuent à créer une atmosphère de travail, une atmosphère de collaboration, de coopération, bien là, ça fait toute la différence. Parce que lorsqu'on capte ces repères, eh bien, ça nous aide. Ça nous aide à voir où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine étape. Où est-ce qu'on s'en va pour quels sont les outils, quelles sont les personnes, quelles sont les ressources qu'on a besoin pour passer à un autre niveau. C'est pour ça que c'est important, toute la question de développer un esprit d'équipe. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse voir cette présentation ensemble, une présentation que je vais afficher à l'écran. Et je vous remercie d'être là. C'est vraiment, moi, ça me touche à chaque fois de savoir qu'il y a des gens qui sont présents. Vous contribuez, comment dirais-je, vous contribuez à me stimuler à mieux vous servir. Alors, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour vous servir, pour vous communiquer de l'information, vous donner, vous mettre en contact avec des ressources, avec des idées, stimuler votre réflexion et évidemment stimuler votre action. Parce que moi, je crois que fondamentalement que la pensée précède l'action. Ça fait partie de ma philosophie. Alors, je vais vous afficher à l'écran notre présentation « Développer un esprit d'équipe, partie 2 ». Donc, il y a plusieurs styles d'équipe, plusieurs types d'équipes. Il y a des équipes sportives, des équipes autogérées, des équipes de projet indépendantes, interdépendantes, formelles, informelles, exécutives, virtuelles, interfonctionnelles. Il y en a qui sont interfonctionnelles et virtuelles de plus en plus. Et les équipes interfonctionnelles et virtuelles deviennent les modèles les plus utilisés dans les entreprises, spécialement avec la réalité dans laquelle on vit présentement. Il y a beaucoup de télétravail et donc les entreprises, le marché a dû s'adapter à cette nouvelle réalité et même la fonction publique. Alors, c'est important de considérer que les outils, comme on utilise aujourd'hui, comme j'utilise, j'ai une plateforme de diffusion, il y a des réseaux sociaux que j'utilise. Pourquoi? Parce que ça nous permet de diffuser l'information, on démocratise l'information. Et les entreprises qui savent tirer leurs épingles du jeu, eh bien, à ce moment-là, leur épingle du jeu, devrais-je dire, eh bien, à ce moment-là, évidemment, se démarquent et sont inspirantes, sont motivantes et génèrent une dynamique. Évidemment, ça amène des changements. On doit toujours être à l'affût et ça demande de l'énergie. Et c'est pour ça qu'un leader efficace est énergique. Maintenant, c'est important d'édifier, de construire, de bâtir une équipe qui est interfonctionnelle. En d'autres mots, c'est qu'il y a des composantes à l'intérieur qui travaillent en synergie, qui sont complémentaires. En entreprise, une équipe interfonctionnelle, c'est un groupe de personnes qui a des compétences fonctionnelles différentes, mais qui travaillent vers un objectif commun. Alors, ça peut inclure des personnes des départements, par exemple des finances, de la mise en marché, des opérations, des ressources humaines, mais ça peut également, un leader, un entrepreneur peut bâtir une équipe avec des gens de l'extérieur, intégrer des fournisseurs, des clients clés ou des consultants. Par exemple, maintenant, avec l'utilisation des plateformes de diffusion, c'est facile de mobiliser des gens dans son bureau ou de mobiliser des membres de son équipe, de se brancher, de créer une réunion virtuelle et d'intégrer un client pour une demi-heure, 60 minutes, 90 minutes ou un consultant, par exemple. Les équipes interfonctionnelles fonctionnent souvent comme des équipes autonomes qui répondent à des directives générales, mais pas nécessairement spécifiques. En d'autres mots, il y a des directives générales qui sont données. On délègue à ces équipes-là de trouver les moyens. Les objectifs doivent être clairs, mais les moyens à ce moment-là ne sont pas nécessairement... Ce n'est pas qu'ils ne sont pas clairs, les moyens. c'est qu'on délègue les moyens, on donne une responsabilité à cette équipe de dire, maintenant, ce qu'on veut, dans le cadre, évidemment, à l'intérieur des valeurs et de la culture de l'entreprise, avec intégrité, on veut que les objectifs soient rencontrés et les moyens sont délégués à ces équipes-là. Donc, c'est important de définir les rôles au sein de l'équipe. Parce que, règle générale, les gestionnaires ou les organisations qui créent des équipes de travail devraient s'assurer que chacun des rôles peut être joué par un membre de l'équipe. Donc, et c'est important que chaque membre de son équipe, eh bien, on puisse avoir des rôles clairs et définis. Ça ne veut pas dire définis là, d'une manière pointilleuse, mais que chacun a une idée de quelle est sa force et quel est son carré de sable. Quel est son terrain de jeu? Où est-ce qu'il peut manœuvrer? Où est-ce qu'il peut intervenir? Où est-ce qu'il développe de l'assurance? Certains rôles sont compatibles et peuvent être remplis par la même personne. Il y a des rôles qui sont, j'appelle ça des rôles composés. En d'autres mots, quelqu'un a deux ou trois chapeaux parce qu'il y a énormément d'habiletés, de compétences à ce moment-là. Ça peut arriver. Et quand cette personne-là en a un peu trop, et là, qu'elle atteint son seuil d'incompétence, si on peut dire, parce qu'à un moment donné, c'est le goulot de l'entonnoir, hein, ça crée une congestion, et c'est le temps de, justement, fractionner sa tâche ou de déléguer davantage. Donc, c'est sûr que pour que des opérations, des tâches, un service soient bien exécutés, eh bien, c'est important qu'ils puissent avoir des couleurs différentes qui s'agencent. Et le leader est là pour s'assurer qu'il y a une harmonie. Hein. C'est un peu comme différents instruments de musique qui vont jouer des partitions différentes, mais tous ensemble, lorsque tous les instruments sont réunis et chacun joue sa partition, eh bien, ça crée une harmonie, ça crée une pièce musicale qui est agréable, en règle générale, règle générale, et ça dépend des styles, évidemment, de vos intérêts musicaux, mais règle générale, ça produit un fini qui est intéressant, surtout quand c'est publié d'une manière professionnelle. Alors, ça signifie qu'une équipe va être composée idéalement de 3 ou 4 membres. C'est important d'avoir... si on veut avoir des équipes fonctionnelles, évidemment, il peut y avoir des départements, mais au sein des départements, si on veut avoir du dynamisme, un leader a intérêt à mobiliser 3-4 personnes qui délèguent et ces personnes-là vont justement rejoindre différents secteurs du département, créer une motivation. C'est important pour un leader de s'entourer de 3-4 personnes clés pour soit des remue-ménages, soit par exemple raffiner des processus, etc., créer de la motivation, d'avoir le feedback des gens. Un leader qui consulte est un leader intelligent. Hein? Un leader qui consulte. Et consulter, ça ne veut pas dire « Ah, je t'écoute, puis je fais à ma tête. » Consulter, ça veut dire « Ok, je t'écoute, puis je m'ajuste. » Parce que ce que ça crée un sentiment d'appartenance. Wow! Les joueurs clés qui sont autour du leader contribuent à la transformation de l'organisation. Ça crée inévitablement un sentiment d'appartenance. Quand un leader ne crée pas de sentiment d'appartenance, qu'est-ce que ça fait? Croyez-moi, je l'ai étudié dans mon projet de recherche à la maîtrise. Ça fait en sorte qu'il y a un désintéressement et ça crée une démotivation. Alors, il est important de se rappeler que les rôles représentent des tâches et des fonctions dans l'autogestion des activités d'équipe. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que plus on définit le rôle de chacun ou plus on reconnaît la brillance, si on veut, plus on reconnaît... que ce soit le charisme, les compétences des gens, mais plus on peut, à ce moment-là, quand on a besoin de joueurs clés dans l'équipe pour faire la différence, bien, on sait où les placer et à quel moment, à quel endroit et avec qui. Ça, c'est important. Parce que les ressources humaines jouent un rôle extrêmement important dans l'organisation. C'est eux qui font bouger les gens, qui font avancer justement l'organisation et même l'amène à un plus haut niveau. Définitivement, une organisation en déclin, bon, il y a plusieurs facteurs. Je parle en généralité ici. Évidemment, il y a le marché, il y a toutes sortes de causes, mais règle générale, une organisation qui atteint un plateau ou qui est en déclin, il y a certainement au niveau des ressources humaines des difficultés qu'on peut identifier à ce moment-là. Au sein d'une équipe, il y a des gens qui vont être centrés sur l'objectivité, la subjectivité, l'efficacité ou la qualité. Hein. Si quelqu'un qui est centré sur l'objectivité, et c'est important d'avoir des quatre. C'est important d'avoir, par exemple, des produits et services de qualité, mais c'est important que l'organisation soit efficace. Mais il y a une dimension subjective, donc le souci des relations humaines, parce qu'il y a des ressources humaines qui sont impliquées dans le processus, et de l'objectivité. On a un rendement, on doit faire des analyses qui tiennent compte des faits. Alors ça, c'est bien important. Donc quand on est centré sur l'objectivité, les membres qui sont caractérisés par l'objectivité, eh bien, ce sont des membres qui sont souvent sobres, stratégiques, perspicaces, qui essaient de voir toutes les options puis de juger avec précision. Donc, ils ont besoin des faits, ils ont besoin de l'information. Et donc, un membre qui est caractérisé par l'objectivité apporte une analyse qui est mesurée, impartiale, objective, empêche l'équipe de s'engager dans une tâche mal avisée. Donc, c'est beaucoup plus prévisible les résultats parce qu'il y a une analyse qui est faite. Par contre, un membre qui est centré ou un membre de l'équipe sur la subjectivité, lui, ce qui est important pour lui, c'est le climat, les relations interpersonnelles au sein de l'équipe. Est-ce que c'est bien entretenu? Est-ce que lorsqu'on fait des changements, lorsqu'on modèle des choses, lorsqu'on ajuste, ou est-ce qu'il y a des transformations, ou est-ce qu'il y a des 180 degrés, est-ce qu'on a tenu compte des relations humaines au travers le processus? Alors, ça, ce sont des gens qui sont centrés plus sur la subjectivité et sur l'efficacité, eux. Ceux qui sont centrés sur l'efficacité sont des gens plus pratiques, ce qu'on appelle des pragmatiques. Donc, ils vont faire preuve de pragmatisme. Qu'est-ce que ça peut créer? Bien, ils vont chercher à trouver des processus améliorés. Et parfois, on peut les voir comme manquant un peu d'enthousiasme parce qu'ils sont centrés sur la tâche, évidemment, sur l'exécution. Mais ils vont amener des résultats parce qu'ils voient juste, ils savent qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre un résultat. Souvent, quelqu'un qui est centré sur l'efficacité va être de pair avec quelqu'un qui est centré sur l'objectivité. Il va essayer de dire, OK, voici les faits et comment on peut mieux y arriver. Il va améliorer la situation pour amener plus de résultats. Et la personne ou le membre de l'équipe qui est centré sur la qualité, eh bien, ce sont des gens ou c'est une personne qui est soucieuse du détail au sein de l'équipe. C'est quelqu'un qui est soucieux du détail et qui va justement repérer les failles pour savoir exactement où se trouve l'équipe par rapport à son emploi du temps. Et on peut dire que c'est un acheveur, c'est celui qui impose des délais et qui s'assure qu'ils soient respectés. Donc, pourquoi? Parce que on veut que la qualité soit au rendez-vous. On veut à ce moment-là que les gens puissent bénéficier de cette qualité et de la qualité de l'équipe, de la réputation que l'équipe peut avoir, par exemple, au sein de l'entreprise. Ça, c'est bien important. Alors, je poursuis avec une nouvelle diapositive. Attendez-moi une seconde. Je suis là. Et on est là ici. Il y a d'autres rôles qu'il peut y avoir au sein de l'organisation, au sein d'une équipe. Eh bien, il y a ce qu'on appelle, ou ce que je peux appeler les planteurs, ceux qui vont semer. C'est un membre de l'équipe qui est créatif, qui est imaginatif, qui est peu orthodoxe, mais qui résout des problèmes difficiles. Ces gens-là se situent parfois loin des autres membres de l'équipe. Ils reviennent toujours présenter leur idée brillante. Okay? C'est eux qui vont essayer de vendre leur idée. Ils vont essayer d'intégrer leur idée. Ils ne jouent pas toujours dans les paramètres. Ils sortent de la boîte. Hein? Ils pensent en dehors de la boîte, mais ce sont des gens qu'on a besoin, mais ne font pas toujours l'unanimité. Ceux qui ont le sens de la coordination, eh bien, c'est sûr que les membres de l'équipe sont en mesure de contribuer aux discussions, aux décisions. Eux sont beaucoup caractérisés par le souci de justice, d'équité entre les membres de l'équipe. Il y en a d'autres, c'est des chercheurs de ressources. Un chercheur de ressources, c'est un réseauteur. Quels que soient les besoins de l'équipe, cette personne-là va être susceptible d'avoir quelqu'un dans son carnet d'adresses en disant « Ah oui, je sais qui, quelle entreprise on devrait faire affaire, tout ça. Ah, je connais quelqu'un ici. Ah, je connais un consultant. » Donc, c'est cette personne-là qui est toujours aux aguets, qui est capable de, au sein d'une réunion, par exemple, dire « OK, je connais quelqu'un qui peut contacter quelqu'un. » C'est vraiment une personne qui a un carnet d'adresses assez bien rempli, qui est branchée sur les ressources professionnelles. Il y a le spécialiste, la personne qui fournit des compétences puis des connaissances spécialisées. Il y a une approche dévouée, résolue. Puis, parfois, par contre, vu qu'ils sont spécialistes, ils ont souvent une vue très, comment dirais-je, une vue très laser, très compartimentée pour certains, d'une perspective, parce qu'ils sont, ils ont développé une expertise dans un champ. Et ces gens-là, c'est important de les considérer dans leur champ de compétences, mais ce qui peut les frustrer, c'est que souvent, les leaders vont voir tout l'ensemble et ces spécialistes-là, parfois, se sentent un peu comme pas appréciés à leur juste valeur parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas toujours dedans. Alors que ce qu'ils voient, ils voient quelque chose de juste, mais souvent, c'est segmenté. C'est pas d'une façon holistique ou globale. Le façonneur, c'est le membre de l'équipe qui est dynamique, qui aime les défis et va s'épanouir sous la pression. Ce membre de l'équipe-là possède de la motivation, du courage nécessaire pour surmonter des obstacles. Donc, il va donner le ton. Et le finisseur, lui, c'est une personne qui respecte les délais, aime faire avancer les choses. Sont probablement irrités par les membres les plus détendus de l'équipe qui disent, par exemple, si vous avez des membres qui sont centrés sur la subjectivité et qu'il y a un finisseur qui en prend conscience, eh bien, à ce moment-là, il peut avoir de l'irritation en disant, hey, écoute, on n'est pas juste ici pour avoir du plaisir, là, puis socialiser, faire du social. On a du travail à faire. Donc, c'est important de voir que dans l'équipe, plus on prend conscience de ces réalités-là, plus on réalise qu'il n'y a pas comme un rôle important là, qui fait toute la différence. Parce que chaque membre, chaque rôle a ses limites, a sa valeur, a son importance, mais a ses limites également. Donc, c'est ça qui est important à considérer, que justement, le travail d'équipe, c'est pas que, wow, si je peux trouver un joueur clé, là, ça va tout faire, ça va faire toute la différence à ce moment-là. Et je peux vous dire une chose, c'est que si on a pas justement une vue d'ensemble, puis en tant que leader, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une vue d'ensemble, voir et comprendre le rôle de chacun. Quels sont les joueurs clés? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sous-estimés? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont tenus à l'écart et qu'on aurait intérêt à mettre en valeur, par exemple? Et ça c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de leaders, surtout quand on est dans une moyenne ou une grande entreprise, qui vont avoir soit un responsable des ressources humaines ou même un département des ressources humaines pour tenir compte de toutes ces réalités-là. Mais quand on est leader, on est dirigeant, on est patron, on est propriétaire d'une petite entreprise, à ce moment-là, c'est différent. On doit composer avec des gens qui sont plus ce qu'on appelle multitâches. Mais même là, quand il est temps de passer à d'autres échelons, il faut considérer que les joueurs d'équipe sont importants. Parce que c'est ça qui nous amène à aller plus loin. C'est la force de chacun. Ça crée un effet de levier. Et c'est pour ça qu'il y a des compétences qui sont requises au sein d'une équipe. Il y a des compétences qui sont évidemment relationnelles et qui sont attachées à l'intelligence émotionnelle. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. On va passer une capsule sur l'intelligence émotionnelle parce que ça, c'est important. C'est pas tout d'avoir les compétences, c'est pas tout d'être doué, ce n'est pas tout de voir clair, ce n'est pas tout de voir le processus, comment y arriver, de se donner des objectifs, des moyens, parce que ça doit se vivre dans une réalité où est-ce qu'on compose avec des susceptibilités. Alors ça, c'est important, ça, de considérer ça, parce que autant la tâche que le climat de travail La tâche et le climat de travail sont importants. Ce n'est pas juste la tâche, ce n'est pas juste qu'on a exécuté des tâches, on a été sur la route ou on a fabriqué un produit ou on livre un service, mais il y a toute une question de service après-vente, d'enthousiasme, de souci du client, etc., d'atmosphère de travail. Donc, pour ça, ça demande de l'intelligence émotionnelle. Je vous lance un peu l'idée aujourd'hui parce que je veux que vous soyez avec moi la semaine prochaine. Je vais le développer davantage. Mais c'est important de pouvoir développer l'écoute parce que c'est important de prendre le temps d'accueillir les idées des autres. Parfois, bien, puis il y a une façon aussi de dire, bien, en ce moment, ce n'est pas le temps. Sais-tu quoi? J'aimerais ça qu'on revienne sur cette idée-là un peu plus tard. Il y a quelque chose d'intéressant, mais en ce moment, on a un objectif qui est différent. Donc, c'est toujours dans le doigté, dans l'art de comment on compose avec ces réalités-là. C'est important de poser des questions. Parce que parfois, on peut voir comme membre d'équipe, on dit « Ah non, on va foncer dans un mur avec ça. » Alors, plutôt que s'opposer, mettre le point sur la table, « Non, ça ne marchera pas. » Posez les questions pertinentes. Pendant que vous gardez le silence, cherchez une question. Quelle est une question qui va faire réfléchir tout le monde pour pouvoir persuader? Parce que c'est important d'avoir de bons arguments. Et parfois, le meilleur argument, c'est une question. Et le respect. Le respect, c'est drôlement important. Et savez-vous quoi? Évidemment, je suis un coach en intelligence genrée. Ça ressort. Ça ressort même dans le leadership parce qu'on vit les choses d'une manière différente. Savez-vous quoi? Entre être respecté et être aimé, un homme préfère être respecté qu'être aimé. Donc, c'est pour ça que parfois, il va être capable de prendre des décisions difficiles qui vont le troubler sur le moment, mais il va bien dormir la nuit suivante. Peut-être que la veille, il ne dormira pas bien parce qu'il doit confronter quelqu'un, congédier quelqu'un. Mais une fois que c'est fait, pourquoi? Parce que il préfère être respecté par ses supérieurs, ses actionnaires, respecté par ses clients, que d'être aimé. Alors, à ce moment-là, ça, c'est bien important. Et c'est important de traiter les gens avec respect. Les femmes aiment être considérées. Si, par exemple, vous gérez une réunion et que les femmes attendent souvent qu'on les invite. Bon, évidemment, je parle de généralité. Certaines femmes sont très alertes et ont appris à s'intégrer dans une culture masculine. Mais si votre entreprise est caractérisée par une culture masculine, c'est important de les inviter à parler. Ce n'est pas parce qu'elles gardent le silence qu'elles n'ont rien à dire et ce n'est pas parce qu'elles gardent le silence qu'elles n'ont rien à dire de pertinent. Ça, c'est important. Alors, et aider, bon, écouter, questionner, persuader, respecter, c'est important, mais l'objectif du travail en équipe, c'est d'aider, c'est de contribuer. Et c'est pour ça que dans un univers de partage, où est-ce qu'on crée pour créer un environnement de travail d'équipe, ça prend de la coopération, de la collaboration, puis un esprit de partage. Où est-ce que se trouve l'esprit de partage dans mon organisation? Eh bien, c'est là que je vais voir si, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des temps où est-ce que l'esprit de partage est mis à contribution? Ça en dit long sur l'esprit d'équipe qui règne dans votre organisation. Évidemment, ça demande de la participation, donc pour que le plus grand nombre de gens puissent contribuer. Quand je dis ça, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire des réunions d'employés à toutes les semaines ou est-ce qu'il y en a 150 qui donnent leur idée? Non. Mais il y a des moyens. Des fois, il y a des boîtes à suggestions, il y a des chambres d'échange qu'on appelle des chat rooms, etc. Maintenant, avec les moyens électroniques, il est possible d'avoir du feedback. Simplement aussi pour un patron de sortir de son bureau, d'aller marcher, de rencontrer les gens, de questionner, de voir comment ça se passe, d'observer, etc. Ça aide, ça contribue à la participation. Ou d'être présent de temps en temps, sans être là tout l'heure du dîner, mais d'entrer, que le patron rentre dans la salle à dîner simplement pour saluer. Puis quand il y en a un qui sort, puis comment ça va, etc. Pour respecter quand même l'environnement des travailleurs. Mais de montrer une connexion pour amener, créer un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que la communication, pour travailler efficacement, c'est essentiel pour qu'ils puissent mettre à profit leurs compétences, leur créativité. Et ça permet à l'équipe, quand on développe l'écoute, on développe justement de la créativité, le sens du partage, qu'il y a une communication qui est de plus en plus saine parce que les problèmes sont résolus, il y a un bon suivi, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'équipe contribue à une belle culture organisationnelle de l'organisation, une belle culture organisationnelle de l'entreprise. C'est le mot que je cherchais. Et c'est pour ça, parce qu'on veut que cet esprit-là puisse contribuer à la mission de l'entreprise, la mission qui est sa raison d'être. Alors, une équipe saine repose sur l'interaction saine de ses membres qui sont responsables de leur action et de leur émotion. Ça, c'est important. Et voyez-vous, je vous prépare à la semaine prochaine. Responsables de leur action et de leur émotion, prennent conscience de leur communication et de leur effet, de l'effet de leur communication, établissent des relations efficaces et aident les autres à résoudre des conflits facilement et rapidement, puis utilisent l'intelligence émotionnelle pour améliorer leur performance plutôt que les saboter. Hein? On peut s'auto-saboter et on peut auto-saboter une dynamique d'équipe. Ça, c'est facile à faire. Il suffit de se laisser aller. Il suffit de laisser aller la négativité. Et ça, on n'en veut pas de ça. Définitivement pas. Alors, moi, je vais terminer dans les prochaines secondes cette présentation et j'ai envie de vous offrir un cadeau parce que vous avez suivi cette présentation-là. Vous avez été avec moi à l'écoute. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante que vous allez voir à l'écran qui va apparaître dans quelques instants. Éric Lantier, A Commercial, marsvenuscoaching.com. Donc, c'est Éric Lantier, A Commercial, marsvenuscoaching.com. Pourquoi je vous invite à m'écrire à cette adresse? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que j'ai besoin de vous offrir un cadeau. Pourquoi je dis ça? J'ai besoin parce que j'aime contribuer au bien-être des autres. Quand on sollicite ma créativité, quand on sollicite, par exemple, mes conseils, quand on fait appel à mes services, eh bien, moi, je suis heureux, je suis comme un poisson dans l'eau. Alors, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est lorsque vous m'écrivez à Éric Lantier, A Commercial, marsvenuscoaching.com, eh bien, je vous envoie un questionnaire qui va vous aider, à prendre connaissance de vos habiletés et des traits de caractère qui vous caractérisent, des traits de caractère qui démontrent quel genre de leader vous êtes, quel genre d'entrepreneur vous êtes. Ce que ça fait, c'est que ça va montrer où sont les zones dans votre personnalité qui ont besoin d'un complément d'objet direct. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut tout simplement dire que lorsque vous... la voilà, elle est à l'écran. Je ne sais pas, ça a bloqué, ça l'a comme gelé. Éric Lantier, A Commercial, marsvenuscoaching.com. Je vous envoie un questionnaire. C'est un questionnaire qui prend quand même un certain nombre de temps à remplir. Mais par l'analyse, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir où sont les endroits où est-ce que vous avez besoin d'un complément d'objet direct. Où sont les endroits où est-ce que vous avez besoin soit d'un associé, soit d'un adjoint ou d'une adjointe, soit que vous intégriez un membre de votre équipe qui va vous compléter, qui va amener une nouvelle couleur, qui va amener l'entreprise plus loin. Peut-être cette personne-là existe déjà, elle est autour de vous. Maintenant, à savoir, est-ce que ça amène le résultat que vous avez prévu, que vous avez escompté? Ça pourrait faire partie des discussions parce que je vous offre. Une fois que vous me renvoyez le questionnaire rempli, on fixe un rendez-vous et je vous offre une période gratuite de 45 minutes pour en faire l'analyse, vous donner mes réponses, mon analyse, qu'on en discute ensemble et voir comment ça s'applique dans votre entreprise. On a le temps, lorsqu'on est efficace, de faire ça en 45 minutes. Alors, ça, c'est le cadeau que je vous offre. Et donc, on va voir la semaine prochaine comment développer son intelligence émotionnelle. Alors, je vous invite à m'écrire à Éric Lantier, A Commercial, marsvenuscoaching.com pour recevoir ce questionnaire. Vous le remplissez, vous me l'envoyez à votre tour et on se fixe un rendez-vous pour en faire l'analyse. Alors aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des rôles différents dans l'équipe. On doit considérer ces différences-là. Chacune des différences contribue. Il y en a certaines, par exemple, certaines caractéristiques ou certains joueurs qui vont se démarquer plus que d'autres à certains moments dans l'histoire de l'organisation, par exemple, vont se démarquer à des moments bien stratégiques parce que leur contribution est plus importante que d'autres dans ce segment-là, dans les changements qu'on va apporter, dans la dynamique qu'on apporte, ou parfois c'est tout simplement dans un projet ou dans un service spécifique ou dans un défi qu'on veut régler. Alors, c'est important de savoir qui on a autour de nous. Est-ce que nos joueurs sont à la bonne place? Parfois, en changeant des joueurs de place, ça amène une dynamique nouvelle. Et c'est pour ça que des outils d'analyse peuvent servir, peuvent vous aider à ça. J'espère que vous allez être avec moi la semaine prochaine pour ce qui est de l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle dans l'organisation, ça fait toute la différence. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Et à tous les leaders et les entrepreneurs qui sont en train de me suivre, je vous invite à être là avec moi jeudi prochain, autour de 7 heures au Québec, autour de 13 heures en Belgique et en France. Sur ce, eh bien, je vous dis bon jeudi à tous et à toutes. Au revoir!